Bonjour et bienvenue dans l'émission Compost Cosmique sur Radio BLV 93.6. Chaque mois, Compost Cosmique vous propose une décomposition alchimique entre musique et extraits littéraires comme des clés ouvrant des portes vers d'autres horizons.
Nous présentons Fahrenheit 451, roman d'anticipation écrit par Ray Bradbury, publié en 1953. Dans une société où les livres sont devenus interdits et où les pompiers sèment les incendies, le pompier Montag entre en résistance. Le texte ici est lu par Christophe Montenez.
Une émission compostée par Compost Cosmique.
Permettez que je vous pose une question ? Dit alors Clarisse McLellan. Depuis combien de temps êtes-vous pompier ? Depuis l'âge de 20 ans. Ça fait 10 ans. Vous arrive-t-il de lire les livres que vous brûlez ? Il éclata de rire. Mais c'est contre la loi. Ah oui, c'est vrai. C'est un chouette boulot. Le lundi, brûle Millet. Le mercredi, Whitman. Le vendredi, Faulkner. Réduis-les en cendres et puis brûle les cendres. C'est notre slogan officiel. Ils firent quelques mètres et la jeune fille demanda : C'est vrai qu'autrefois les pompiers éteignaient le feu au lieu de l'allumer ? Non, les maisons ont toujours été ignifugées, croyez-moi.
Bizarre. J'ai entendu dire qu'autrefois, il était courant que les maisons prennent feu par accident et qu'on avait besoin de pompiers pour éteindre les incendies.
Il s'esclaffa. Elle lui jeta un bref coup d'œil.
« Pourquoi riez-vous ? »
« Je ne sais pas. » Il se remit à rire et s'arrêta. « Pourquoi cette question ? Vous riez quand je n'ai rien dit de drôle et vous répondez tout de suite. Vous ne prenez jamais le temps de réfléchir à la question que je vous ai posée. » Il s'arrêta de marcher. « Vous, alors, vous êtes un sacré numéro, » dit-il en la dévisageant. « Vous ne savez donc pas ce que c'est que le respect ? » ?»«
Je ne cherche pas à vous insulter. C'est simplement que j'aime un peu trop observer les gens, je crois. »
« Et ça ? Ça ne vous dit rien ?» Il tapota le 451 cousu sur sa manche, couleur de charbon.
« Si, » murmura-t-elle. Elle pressa le pas.
« Avez-vous déjà regardé les jet cars foncer sur les boulevards par là-bas ? Vous changez de sujet. Il m'arrive de penser que les conducteurs ne savent pas ce que c'est que l'herbe, les fleurs, parce qu'ils ne laissent jamais leurs yeux s'attarder dessus. Prenez un conducteur et montrez-lui le flou qui l'entoure. Si c'est vert, il dira « Tiens, voilà de l'herbe. Si c'est rose, voilà un jardin de roses. Les taches blanches, ce sont des maisons, les marrons des vaches. » Un jour, mon oncle s'est avisé de conduire lentement sur une autoroute. Il roulait à 70 à l'heure. Il a eu droit à 2 jours de prison. C'est drôle, non ? Et triste, aussi. Vous trouvez pas ?
Vous pensez trop, dit Montague, mal à l'aise.
Je regarde rarement les murs écrans, et je vais guère aux courses ou dans les parcs d'attractions. Alors j'ai beaucoup de temps à consacrer aux idées biscornues, je crois.
Vous avez vu les panneaux d'affichage de 60 mètres de long en dehors de la ville ? Saviez-vous qu'avant, ils ne faisaient que 6 mètres de long ? Mais avec la vitesse croissante des voitures, il a fallu étirer la publicité pour qu'elle puisse garder son effet.
« J'ignorais ça ?» s'exclama Montague avec un rire sec.
« Je parie que je sais autre chose que vous ignorez. Il y a de la rosée sur l'herbe le matin. »
Voilà qu'il ne se rappelait plus s'il savait cela ou non. Il en éprouva une vive irritation.
« Et si vous regardez bien ?»
Elle leva la tête vers le ciel.
« On distingue le visage d'un bonhomme dans la lune. »
Il y avait longtemps qu'il n'avait pas regardé de ce côté-là. Le reste du trajet se passa en silence. Silence pensif pour elle, silence crispé et gêné pour lui, du fond duquel il lui lançait des regards accusateurs. Ils atteignirent la maison de Clarisse. Toutes les fenêtres étaient illuminées.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
Montague n'avait jamais vu une telle débauche d'éclairage dans une maison.
« Oh, simplement mon père, ma mère et mon oncle qui sont là en train de bavarder. C'est comme de se promener à pied. » Sauf que c'est plus rare.
Mon oncle a été arrêté, une autre fois. Je ne vous ai pas raconté.
Parce qu'il allait à pied.
Oh, nous sommes des gens très bizarres.
Mais de quoi parlez-vous donc ? Elle répondit par un éclat de rire.
Bonsoir.
Elle s'engagea dans l'allée. Puis elle parut se souvenir de quelque chose, revint sur ses pas et posa sur lui un regard plein d'étonnement et de curiosité.
Est-ce que vous êtes heureux ?
Fit-elle.
« Est-ce que je suis quoi ? » s'écria-t-il.
Mais elle était déjà repartie, courant dans le clair de lune. Sa porte d'entrée se referma doucement.
We'll be right back.
cascade de livres s'abattit sur mon tag, tandis qu'il gravissait, parcouru de frissons, l'escalier en pente raide. Quelle plaie! Jusque-là, ça n'avait jamais été plus compliqué que de moucher une chandelle. La police arrivait d'abord, bâillonnait la victime au ruban adhésif et l'embarquait pieds et poings liés dans ses coccinelles étincelantes, de sorte qu'en arrivant, on trouvait une maison vide. On ne faisait de mal à personne, on ne faisait du mal qu'aux choses. Et comme on ne pouvait pas vraiment faire du mal aux choses, comme les choses ne sentent rien, ne poussent ni cris ni gémissements, contrairement à cette femme qui risquait de se mettre à hurler et à se plaindre, rien ne venait tourmenter votre conscience par la suite. Ce n'était que du nettoyage, du gardiennage pour l'essentiel. Chaque chose a sa place. Par ici le pétrole, qui a une allumette. Mais ce soir, quelqu'un avait perdu les pédales. Cette femme gâtait le rituel. Les hommes faisaient trop de bruit, riant et plaisantant pour couvrir son terrible silence accusateur au rez-de-chaussée. Sa présence faisait planer dans les pièces vides un grondement lourd de reproches, leur faisait secouer une fine poussière de culpabilité qui s'infiltrait dans leurs narines tandis qu'ils se ruaient en tous sens. Les règles du jeu étaient faussées, et Montag en éprouvait une immense irritation. Elle n'aurait pas dû être là en plus de tout le reste. Des livres lui dégringolaient sur les épaules, les bras, le visage. Un volume lui atterrit dans les mains, presque docilement, comme un pigeon blanc, les ailes palpitantes. Dans la pénombre tremblotante, une page resta ouverte, comme une plume neigeuse sur laquelle des mots auraient été peints avec la plus extrême délicatesse. Dans la bousculade et l'effervescence générale, Montag n'eut que le temps d'en lire une ligne, mais elle flamboya dans son esprit durant la minute suivante, comme imprimée au fer rouge. Le temps s'est endormi dans le soleil de l'après-midi. Il lâcha le livre. Aussitôt, un autre lui tomba dans les bras. « Montag, par ici !» La main de Montag se referma comme une bouche, écrasa le livre avec une ferveur sauvage, une frénésie proche de l'égarement contre sa poitrine. Là-haut, les hommes lançaient dans l'air poussiéreux des pelletées de magazines qui s'abattaient comme des oiseaux massacrés, tandis qu'en bas, telle une petite fille, la femme restait immobile au milieu des cadavres. Montag n'y était pour rien. C'était sa main qui avait tout fait. Sa main, de son propre chef, douée d'une conscience et d'une curiosité qui faisait trembler chacun de ses doigts, s'était transformée en voleuse. Voilà qu'elle fourrait le livre sous son bras, le pressait contre son aisselle en sueur, et ressurgissait, vide, avec un geste de prestidigitateur. Admirez le travail, l'innocence même, regardez. Stupéfié, il regarda cette main blanche, de loin, comme s'il était hypermétrope, de près, comme s'il était aveugle. Montag ! Il sursauta. Ne restez pas là, idiot ! Les livres gisaient comme des monceaux de poissons mis à sécher. Les hommes dansaient, glissaient et tombaient dessus. Des titres dardaient leurs yeux d'or, s'éteignaient, disparaissaient. « Pétrole !» Ils se mirent à pomper le liquide froid au réservoir numéroté 451, fixé à leurs épaules. Ils aspergèrent chaque livre, inondèrent toutes les pièces. Ils se précipitèrent en bas, Montag titubant à leur suite dans les vapeurs de pétrole. « En route, la femme !» Agenouillée au milieu des livres, elle caressait le cuir et le carton détrempé, lisait les titres dorés du bout des doigts tandis que ses yeux accusaient Montag. « Vous n'aurez jamais mes livres, » dit-elle. « Vous connaissez la loi, » énonça Beatty. « Qu'avez-vous fait de votre bon sens? Il n'y a pas deux de ces livres qui soient d'accord entre eux. Vous êtes resté des années enfermé ici en compagnie d'une fichue tour de Babel. Secouez-vous donc. Les gens qui sont dans ces bouquins n'ont jamais existé. Allez, suivez-nous. » Elle secoua la tête. « Toute la maison va sauter, » dit Beatty. Les hommes se dirigèrent lourdement vers la porte. Ils se retournèrent vers Montag, resté debout près de la femme. « Vous n'allez pas la laisser ici ?» protesta-t-il. « Elle ne veut pas venir !»« Alors emmenez-la de force !» Beatty leva la main dans laquelle était dissimulé son igniteur. « Il faut qu'on rentre à la caserne. Et puis ces fanatiques tentent régulièrement de se suicider, c'est le schéma classique. » Montag posa une main sur le coude de la femme. « Venez avec moi. »« Non. »« Merci quand même. » »« Je compte jusqu'à 10 !» dit Beatty. « 1, 2, je vous en prie, » insista Montag. « Allez-vous-en, » dit la femme. « 3, 4, venez !» Montag tira la femme par le bras. « Je veux rester ici, » répondit-elle, calmement. « 5, 6.
Vous pouvez arrêter de compter, dit-elle. Elle déplia légèrement les doigts d'une main et dans sa paume apparut un petit objet effilé. Une simple allumette de cuisine.
Of whole systems are predicted by the behavior of any of the parts or any subassembly of the parts. Inasmuch as synergy is the only word that means that.
Il glissa une main sous l'oreiller. Le livre dérobé était toujours là. Mildred,
qu'est-ce que tu dirais si... je lâchais mon boulot pendant quelque temps.
Tu veux tout abandonner? Après toutes ces années de travail, simplement parce qu'une nuit, je ne sais quelle bonne femme et ses livres... Si tu l'avais vue, Millie, elle ne représente rien pour moi. Elle n'avait qu'à ne pas avoir ses bouquins, c'était son affaire. Elle n'avait qu'à y penser. Je la déteste. Elle t'a mis en branle et en avant, on va se retrouver sur le pavé, sans maison, sans travail, sans rien.
Tu n'étais pas là. Tu ne l'as pas vue. Il doit y avoir quelque chose dans les livres, des choses que nous ne pouvons pas imaginer pour amener une femme à rester dans une maison en flammes.
Oui, il doit y avoir quelque chose. On n'agit pas comme ça pour rien.
C'était une simple d'esprit. Elle avait sa raison autant que toi et moi, plus peut-être. Et on l'a brûlée. Ça n'empêche pas l'eau de couler sous les ponts. L'eau peut-être, mais pas le feu. Tu as déjà vu une maison brûlée? Elle fume pendant des jours. Et pour ce qui est de ce feu-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Bon Dieu, toute la nuit j'ai essayé de l'éteindre dans ma tête. C'était à devenir fou.
Tu aurais dû réfléchir à ça avant de devenir pompier.
Réfléchir? Est-ce que j'ai eu le choix? Mon père et mon grand-père étaient pompiers. Dans mon sommeil, je leur courais après.
Le salon jouait un air de danse.
On est le jour où tu prends ton service plus tôt, dit Mildred. Tu devrais être parti depuis 2 heures. Je viens de m'en apercevoir.
Ce n'est pas seulement la mort de cette femme, reprit Montag. Cette nuit, j'ai pensé à tout le pétrole que j'ai déversé depuis 10 ans. Et j'ai pensé aux livres. Et pour la première fois, je me suis rendu compte que derrière chacun de ces livres, il y avait un homme qui les avait conçus, un homme qui avait mis du temps pour les écrire. Jamais cette idée ne m'était venue. Il sortit du lit. Si ça se trouve, il a fallu toute une vie à un homme pour mettre certaines de ses idées par écrit, observer le monde et la vie autour de lui. Et moi, j'arrive en 2 minutes et boum, tout est fini.
Laisse-moi tranquille, protesta Mildred.
Je n'ai rien fait.
Te laisser tranquille?
Très bien. Mais comment je fais pour me laisser tranquille? Nous n'avons pas besoin qu'on nous laisse tranquille. Nous avons besoin de vrais tourments de temps en temps. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas vraiment tourmenté? Pour quelque chose d'important, quelque chose d'authentique. Puis il se tut.
Savez-vous pourquoi des livres comme celui-ci ont une telle importance? Parce qu'ils ont de la qualité. Et que signifie le mot qualité? Pour moi, ça veut dire texture. Ce livre a des pores, il a des traits. Vous pouvez le regarder au microscope. Sous le verre, vous trouverez la vie en son infini foisonnement. Plus il y a de pores, plus il y a de détails directement empruntés à la vie par centimètre carré de papier. Plus vous êtes dans la littérature. C'est du moins ma définition. Donner des détails pris sur le vif. Les bons écrivains touchent souvent la vie du doigt. Les médiocres ne font que l'effleurer. Les mauvais la violent et l'abandonnent aux mouches. Est-ce que vous voyez maintenant d'où viennent la haine et la peur des livres? Ils montrent les pores sur le visage de la vie. Les gens, installés dans leur tranquillité, ne veulent que des faces de lune bien lisses, sans pores, sans poils, sans expression. Nous vivons à une époque où les fleurs essaient de vivre sur les fleurs au lieu de se nourrir de bonnes pluies et de terreaux bien noirs. Même les feux d'artifice, si jolis soient-ils, résultent d'une chimie qui prend sa source dans la terre. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous nous croyons capables de croître à grand renfort de fleurs et de feux d'artifice sans accomplir le cycle qui nous ramène à la réalité. Connaissez-vous la légende d'Hercule édenté, le lutteur géant dont la force était incroyable tant qu'il gardait les pieds fixés au sol? Une fois soulevé de terre par Hercule, privé de ses racines, il succomba facilement. Si cette légende n'a rien à nous dire aujourd'hui, dans cette ville, à notre époque, c'est que j'ai perdu la raison. Voilà la première chose dont je disais que nous avions besoin. La qualité, la texture de l'information. Et la seconde, le loisir. Oh, mais nous avons plein de temps libre. Du temps libre, oui, mais du temps pour réfléchir. Si vous ne conduisez pas à 150 à l'heure, une vitesse à laquelle vous ne pouvez penser à rien d'autre qu'au danger, vous jouez à je ne sais quoi ou restez assis dans une pièce où il vous est impossible de discuter avec les quatre murs du téléviseur. Pourquoi? Le téléviseur est réel, il est là, il a de la dimension, il vous dit quoi penser, vous le hurle à la figure, il doit avoir raison, tant il paraît avoir raison. Il vous précipite si vite vers ses propres conclusions que votre esprit n'a pas le temps de se récrier. Quelle idiotie! Sauf que la famille, ce sont des gens. Je vous demande pardon. Ma femme dit que les livres ne sont pas réels. Dieu merci. Vous pouvez les refermer et dire « pousse ». Vous jouez au Dieu en la circonstance. Mais qui s'est jamais arraché aux griffes qui vous en serrent quand on sème une graine dans un salon télé? Celui-ci vous façonne à son gré. Il constitue un environnement aussi réel que le monde. Il devient, il est la vérité. On peut rabattre son caquet à un livre par la raison, mais en dépit de tout mon savoir et de tout mon scepticisme, je n'ai jamais été capable de discuter avec un orchestre symphonique de 100 instruments, en technicolore et 3 dimensions, dans un de ces incroyables salons dont on fait partie intégrante. Comme vous pouvez le constater, mon salon n'est fait que de 4 murs de plâtre.
We'll be right back.
Comment tout ça est arrivé ? Reprit Montag. Pas plus tard que l'autre nuit, tout allait bien. Et d'un seul coup, me voilà en train de me noyer. Combien de fois peut-on sombrer et continuer de vivre ? Je n'ai même pas le temps de respirer. Voilà Bitty mort, qui était mon amie autrefois. Voilà Millie partie, que je croyais ma femme, mais je n'en sais plus rien. Et la maison réduite en cendres, et mon boulot envolé, et moi en cavale, et je planque un livre chez un pompier au passage. Bon Dieu ! Tout ce que j'ai pu faire en une semaine. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Il y a longtemps que ça menaçait. Oui, je veux bien le croire, même si je ne crois plus en rien. Ça incubait, je le sentais depuis longtemps, je couvais quelque chose, ce que je faisais ne s'accordait pas avec ce que je pensais. Bon sang, tout était là, c'est un miracle que ça ne se soit pas vu. Comme quand on engraisse. Et maintenant, me voilà chez vous, à vous compliquer la vie. Il se peut qu'il me suive jusqu'ici. « Il y a des années que je ne m'étais pas senti une telle vitalité, » rétorqua Faber. « J'ai l'impression de faire ce que j'aurais dû faire il y a une éternité. Pour le moment, je n'ai pas peur. Peut-être parce que je me comporte enfin comme il se doit. Peut-être parce que j'ai agi sur un coup de tête et que je ne peux pas vous paraître lâche. Je suppose qu'il me faudra me montrer encore plus violent, prendre des risques pour ne pas faillir à ma tâche ni retomber dans la peur. Que comptez-vous faire ? Continuez à fuir. Vous savez qu'on est en guerre. » J'ai entendu ça. C'est drôle, hein? Tout ça nous paraît tellement loin par rapport à nos propres ennuis. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Montag tira $100 de sa poche. Je veux que vous gardiez ça. Faites-en l'usage qui vous semblera le meilleur quand je serai parti.
Mais...
Je serai peut-être mort d'ici la fin de la matinée. Faites-en bon usage. Faber opina. Vous auriez intérêt à vous diriger vers le fleuve, si possible. Longez-le. Et si vous arrivez à atteindre la vieille voie ferrée, celle qui mène en pleine campagne, suivez-la. Aujourd'hui, tous les déplacements ou presque se font par voie aérienne et la plupart des voies ferrées sont abandonnées. Mais les rails sont toujours là, à rouiller. Il paraît qu'il y a des camps de vagabonds un peu partout dans le pays, des camps itinérants, comme on les appelle, et que si on marche assez longtemps en restant aux aguets, on trouve des tas de vieux diplômés de Harvard sur les rails entre ici et Los Angeles. La plupart d'entre eux sont recherchés dans les villes. Je suppose qu'ils survivent. Ils ne sont pas nombreux, et je pense que le gouvernement ne les a jamais considérés comme suffisamment dangereux pour motiver des poursuites. Vous pourriez vous terrer quelque temps avec eux, mais reprendre contact avec moi à Saint-Louis. Je pars ce matin par le bus de 5 heures. Je vais y voir un imprimeur à la retraite. Moi aussi, je sors enfin de mon trou. L'argent sera bien employé. Merci, et bonne chance.
Montag poussa un ultime cri de détresse, comme si cela était trop pour un seul homme. La forme se volatilisa, les yeux disparurent. Les tas de feuilles s'envolèrent en une pluie sèche. Montag était au milieu de la nature. Un daim. Il sentit le lourd parfum musqué auquel se mêlait une pointe de sang et les effluves poisseux du souffle de l'animal, odeur de cardamome, de mousse et d'herbe de Saint-Jacques dans cette nuit immense où les arbres se précipitaient sur lui, reculaient, se précipitaient, reculaient au rythme du battement de son cœur derrière ses yeux. Des milliards de feuilles devaient joncher le sol. Il se mit à patauger dans cette rivière sèche qui sentait le clou de girofle et la poussière chaude, et les autres odeurs. De partout s'élevait un arôme de pommes de terre coupées, crues, froid, tout blanc d'avoir passé la plus grande partie de la nuit sous la lune. Il y avait une odeur de cornichons sortis de leur bocal, de persil en bouquet sur la table. Un parfum jaune pâle de moutarde en pot. Une odeur d'œillet venue du jardin d'à côté. Il abaissa la main et sentit une herbe l'effleurer d'une caresse d'enfant. Ses doigts sentaient la réglisse. Il s'arrêta pour respirer. Et plus il respirait la terre, plus il en intériorisait les moindres détails. Il n'était plus vide. Il y avait ici largement de quoi le remplir. Il y en aurait toujours plus que largement. Il repartit en trébuchant dans la nappe de feuilles. Et au milieu de ce monde étrange, un détail familier. Son pied heurta un obstacle qui rendit un bruit mat. Il tâta le sol de la main sur un mètre de ce côté-ci, un mètre de ce côté-là. La voie ferrée.
Schneller. Wir laufen immer schneller. Wir laufen immer schneller. Überall, wo wir hingehen. Überall, wo wir hingehen. Bleib stehen, sieh dich um. Bleib stehen, es ist schön zu sehen, wer du bist. We'll be right back.
tous une mémoire visuelle, mais on passe sa vie à apprendre à refouler ce qui s'y trouve. Simmons, ici présent, a travaillé 20 ans sur la question, et nous possédons à présent la méthode pour nous souvenir de tout ce qui a été lu une seule fois. Aimeriez-vous lire un jour La République de Platon, Montague ?
Bien sûr.
Je suis La République de Platon. Ça vous plairait de lire Marc Aurèle ? Monsieur Simmons est Marc Aurèle.
Enchanté, dit Monsieur Simmons.
Salut, répondit Montague.
Je tiens à vous présenter Jonathan Swift, l'auteur de cet ouvrage politique si néfaste, Les Voyages de Gulliver. Et cet autre est Charles Darwin. Et celui-ci, Schopenhauer. Et celui-ci, Einstein. Et celui-ci, juste à côté de moi, c'est Albert Schweitzer, un fort aimable philosophe, ma foi. Nous sommes tous là, Montague. Aristophane, le Mahatma Gandhi, Gautama Bouddha, Confucius, Thomas Love Peacock, Thomas Jefferson et M. Lincoln, s'il vous plaît. Nous sommes aussi Mathieu, Marc, Luc et Jean, et tout le monde de rire en sourdine.
« Ça ne se peut pas, » dit Montague.
« Mais si, » répliqua Granger en souriant. « Nous aussi, nous sommes des brûleurs de livres. Nous lisons les livres et les brûlons, de peur qu'on les découvre. Les microfilms n'étaient pas rentables. Nous n'arrêtions pas de nous déplacer. Pas question d'enterrer les films pour revenir les chercher plus tard. Toujours le risque qu'on ne tombe dessus. » Le mieux est de tout garder dans nos petites têtes, où personne ne peut voir ni soupçonner ce qui s'y trouve. Nous sommes tous des morceaux d'histoire, de littérature et de droit international. Byron, Tom Paine, Machiavel ou le Christ, tout est là. Et il se fait tard, et la guerre a commencé. Et nous sommes ici, et la cité est là-bas, emmitouflée dans son manteau d'un millier de couleurs. Qu'en pensez-vous, Montague ?
Je pense que j'étais aveugle d'essayer d'agir à mon idée, de cacher des livres chez les pompiers et de donner l'alarme.
Vous avez fait ce que vous estimiez devoir faire. À l'échelle nationale, ça aurait pu marcher magnifiquement. Mais notre méthode est plus simple et, à notre avis, plus efficace. Notre seul désir est de préserver le savoir dont, selon nous, nous aurons besoin. Pour l'instant, nous ne cherchons pas à exhorter ni à provoquer la colère. Car si nous sommes éliminés, c'est la mort du savoir, peut-être à jamais. Nous sommes des citoyens modèles, à notre façon. Nous suivons les anciens rails, nous passons la nuit dans les collines et les gens de la ville nous laissent en paix. Il nous arrive d'être arrêtés et fouillés, mais nous n'avons rien sur nous qui puisse nous incriminer. Notre organisation est souple, très vague et fragmentaire. Certains d'entre nous ont eu recours à la chirurgie esthétique pour se faire modifier le visage et les empreintes digitales. Pour le moment, nous avons du sale boulot sur les bras. Nous attendons que la guerre éclate et qu'elle finisse tout aussi vite. Ça n'a rien d'agréable. Mais nous ne sommes pas aux commandes. Nous constituons la petite minorité qui crie dans le désert. Quand la guerre sera finie, peut-être serons-nous de quelque utilité en ce monde.
Vous croyez vraiment qu'on vous écoutera ?
Dans le cas contraire, il ne nous restera plus qu'à attendre. Nous transmettrons les livres à nos enfants, oralement, et les laisserons rendre à leur tour ce service aux autres. Beaucoup de choses seront perdues, naturellement. Mais on ne peut pas forcer les gens à écouter. Il faut qu'ils changent d'avis à leur heure, quand ils se demanderont ce qui s'est passé et pourquoi le monde a explosé sous leurs pieds. Ça ne peut pas durer éternellement.
Combien êtes-vous en tout ?
Des milliers sur les routes, les voies ferrées, désaffectées. À l'heure où je vous parle, clochard au dehors, bibliothèque au dedans, rien n'a été prémédité. Chacun avait un livre dont il voulait se souvenir et y a réussi. Puis, durant une période d'une vingtaine d'années, nous nous sommes rencontrés au cours de nos pérégrinations. Nous avons constitué notre vague réseau, élaboré un plan. La seule chose vraiment importante qu'il nous a fallu nous enfoncer dans le crâne, c'est que nous n'avions aucune importance, que nous ne devions pas être pédants. Pas question de se croire supérieur à qui que ce soit. Nous ne sommes que des couvre-livres, rien d'autre. Certains d'entre nous habitent des petites villes. Le chapitre 1 du Walden de Toro vit à Green River. Le chapitre 2 à Willow Farm, dans le Maine. Tenez, il y a un patelin dans le Maryland, seulement 27 habitants, aucune bombe n'y tombera jamais, qui constitue les essais complets d'un certain Bertrand Russell. Prenez cette bourgade, à peu de choses près, et tournez les pages, tant de pages par habitant. Et quand la guerre sera finie, un jour, une année viendra où l'on pourra réécrire les livres. Les gens seront convoqués, un par un, pour réciter ce qu'ils savent, et on composera tout ça pour le faire imprimer. Jusqu'à ce que survienne un nouvel âge des ténèbres qui nous obligera peut-être à tout reprendre à zéro.
C'était Compost Cosmique, une émission pour vous accompagner toutes les deux semaines, les mardis de 13h à 14h et les jeudis de 21h à 22h et en podcast sur le site de Radio BLV 93.6. Allô Cosmos, ici Compost.
Tout n'est que mémoire.